Au-delà des apparences.
Au-delà des apparences.
Une émission proposée par Sandrine Merck.
Chères auditrices et auditeurs, vous avez pu constater qu'au-delà des apparences s'ouvre également au monde artistique, par essence au-delà des apparences lui-même. Et nous recevons pour la seconde fois Sandrine Foller, plasticienne et sculpteur. Elle est issue de la tradition figurative, transmise par son maître Jacques Gestalter, elle me dira exactement comment on le prononce, lui-même héritier du courant de la sculpture figurative indépendante initiée par Rodin, Bourdelle et Mayol. Elle a littéralement plaqué Paris il y a une vingtaine d'années pour tenter l'aventure à Toulouse, où elle a installé son nid d'aigle tout en haut d'un immeuble plein centre. Son atelier est devenu un repère pour artistes, pour béotiens, pour amitiés aussi, très accueillant au sens vraiment très large du terme. Et Sandrine pratique une sorte d'accueil artistique et intellectuel bienfaisant, je dirais, et presque ouvert à tous.
Bonjour Sandrine. Et oui, bienveillant, oui, c'est, ça fait partie du...
Bienfaisant, j'ai dit. Moi, et bienfaisant. Parce que bienfaisant, c'est un peu galvaudé.
Oui, peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, certainement pas à mon atelier. Oui, bienfaisant, et j'aime bien ce terme d'ailleurs, merci de le dire, puisqu'il y a quelque chose de l'ordre du faire, et c'est ce que je propose en fait à l'atelier, en initiant mes élèves au dessin, la peinture et la sculpture, sculpture, modelage, je précise.
Donc pourquoi la transmission, pourquoi un tel intérêt sur la transmission en fait ?
Parce que c'est mon ADN, parce que lorsque j'ai rencontré Jacques Gestalter, c'était en 1988, ça a été une rencontre, plus qu'une rencontre forte, ça a été une rencontre déterminante. Son atelier était à Boulogne-Billancourt et il avait plus de 75 ans. Il n'était pas obligé de continuer à transmettre, ce n'était pas une obligation, mais il y avait vraiment quelque chose de l'ordre d'une volonté, et puis d'une volonté, comment dirais-je, de continuer à garder la mémoire vivante de ceux qui nous ont précédés.
Dans leur art.
Dans leur art. Dans l'art, là nous parlons de peinture et de sculpture. Et donc, la première chose que Jacques m'a proposé de faire, et je n'avais jamais fait ça, c'était de tailler le portrait de Michel-Ange. C'était le passage, et là j'ai tenté de relever le défi. Et ensuite, il m'a accepté dans son atelier et je suis restée là-bas pendant 7 ans.
Et c'est exactement cette typologie, je dirais, d'intrusion dans l'art que vous proposez aux gens qui traversent votre atelier ? Comment ça se passe concrètement pour quelqu'un qui vient, qui toque et qui dit « j'aurais travaillé avec vous » ?
En général, c'est à peu près 80-90% des personnes qui n'ont jamais dessiné, peint ou sculpté. Mais elles sont animées par un désir de tenter l'expérience. J'aime bien le mot d'ailleurs. De tenter l'expérience, de vivre quelque chose de différent. Et pourquoi pas le geste créatif ou le geste éventuellement créateur. J'ai des élèves...
C'est-à-dire la différence ?
Le geste créatif, il y a quelque chose, d'un abandon de soi. Et je ne parle pas de la main technique qui va devoir apprendre à dessiner, peindre ou sculpter, mais au-delà d'avoir quelque chose d'une main qui s'épanche, d'une main qui donne. C'est ça, en fait. Il y a quelque chose de ce don-là. Le geste créatif, c'est quand on a des idées, et puis on va essayer un peu de raconter ça.
De trouver l'outil.
De trouver le bon outil et le bon
corporel,
geste.
Corporel, oui.
Exactement. Et puis le geste créateur, là, de mon point de vue, et ce n'est que mon point de vue, il y a quelque chose d'un mûrissement, d'une gestation profonde, Jacques disait penser le geste. De penser le geste. C'est-à-dire qu'en amont, avant, il y a quelque chose qui se met en mouvement, et qui est « qu'est-ce que je vais raconter ?» Pas « comment je vais le raconter ?» Ça, c'est la technique. Et est-ce que j'ai quelque chose à raconter ?
Quelque chose qui pousse et qui peut accoucher éventuellement.
Exactement.
Et que peut-être beaucoup plus de personnes déclarées non-artistes ont en elles, qu'elles peuvent retrouver aussi chez vous, en tout cas dans le premier geste créatif.
J'espère. En tout cas, c'est dans mon métier de transmission, c'est exactement cette voie-là que nous continuons. Je dis nous parce qu'il y avait Jacques et il y en a eu d'autres avant. Nous continuons dans cette transmission, dans cette tradition, en fait.
Alors, on reviendra peut-être un petit peu sur la question du transgénérationnel, sur la lignée, les mémoires, pour arriver sur un point d'actualité, c'est-à-dire que vous faites aussi de la performance. Et alors ça reste un peu une nébuleuse quand même. Donc, expliquer ce qu'est la performance selon vous, où est-ce qu'elle s'exprime, où se niche votre geste créateur dans une performance mariant des musiciens. Et puis on écoutera un petit extrait juste après qu'on ait compris exactement dans quoi vous baignez aussi aujourd'hui.
Absolument, ça sera j'ai la chance et le privilège depuis quelques années de travailler dans le champ de la performance. Alors cela consiste en quoi? Quand je travaille avec les musiciens classiques, dernièrement avec Duo Alma, je suis sur scène et je dessine en live, en temps réel, pendant qu'elles sont en train de jouer. Et je ne sais pas ce que je vais faire. Je n'ai aucune préparation. Alors moi, je suis une passionnée de jazz et de musique classique, mais de jazz. Et ce que j'aime, c'est ce temps d'expérience au moment où je suis traversée par la musique, donc par des émotions, par des sensations. Et cela me raconte quelque chose. Et moi, je le transcris en fait en dessin.
Mais comment est-il retransmis au public ?
C'est filmé, en fait. Il y a une caméra juste au-dessus, en fait, de mon carnet de dessin. Et c'est ensuite projeté sur grand écran.
Donc là, on pourrait peut-être écouter un des derniers extraits qui a fait votre actualité.
Absolument.
Avec Duo Alma. Décrivez-le-nous peut-être très rapidement.
Alors, Duo Alma, c'est donc un duo de Clara Danchin, qui est violoniste, et Anna Jbanova, qui est pianiste. Elles ont formé ce duo il y a 2 ans. Ce sont donc des artistes toulousaines qui enseignent aussi au Conservatoire de Toulouse. Et là, ça va être un extrait de leur premier album qui s'appelle Créatrice. Et c'est en fait une compositrice qui s'appelle Marguerite Canal, qui était une compositrice toulousaine, merveilleux talent.
Alors, on va écouter l'extrait et ensuite, vous nous décrirez ce que vous avez dessiné et peut-être qu'on arrivera peut-être même à le publier sur le site de Radio Présence. Qu'est-ce que cette musique, c'est difficile en radio, mais qu'est-ce que cette musique a inspiré comme dessin à la créatrice que vous êtes ?
Alors, ce que j'aime avec Clara et Anna, c'est que déjà, on se connaît depuis près de 3 ans. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans le cadre du Festival de Toulouse, dont le directeur artistique est Julien Martineau. On ne se connaissait absolument pas et ça a été vraiment une rencontre. Et je les ai écoutés jouer. Alors, comment expliquer, comment raconter ce qui me traverse? En fait, c'est ça. Quand elles jouent, je suis traversée, d'abord parce que je les regarde aussi, je les observe. Alors ça, c'est mon métier, c'est le travail de l'observation en ce qui me concerne. Et il y a les regards, le geste, le mouvement, le balancement du corps, la musique. Et en fait, quand ma main est sur le papier... Comment expliquer ? Ma main se met en mouvement. Il y a des choses qui... Je suis moi-même la première surprise. Il peut y avoir un arbre. Alors, j'ai aussi des éléments de langage artistique. Je suis passionnée par les visages, les portraits. Donc, je fais beaucoup de petits visages, d'arbres, des oiseaux, des tourbillons. Alors ça, je travaille énormément les tourbillons. Pourquoi ? Comment ? Est-ce que c'est lié au triskel en Bretagne de mon enfance ? C'est aussi des évocations du vent, des éléments, de la vie.
Donc, on essaiera de voir peut-être ce dessin en photo ?
Avec plaisir.
Si on arrive à le faire passer donc, sur le site de Radio Présence, ça peut être intéressant. Vous avez une prédilection pour l'art du portrait, comme vous dites, en dessin. en peinture et en sculpture.
Dessin, peinture, sculpture. Le premier portrait que j'ai dessiné, j'ai obligé ma sœur à poser pour moi et j'avais 12 ans. Et ça ne m'a jamais quittée. Et je crois que je suis à peu près à plus de 600 portraits réalisés en dessin, peinture, sculpture.
C'est pas forcément ce qui vous fait vivre.
Non, comme 90% des artistes auteurs en France qui ne vivent pas de leur art.
Donc ?
Eh bien donc, la transmission aussi, et ce n'est pas une nécessité, parce que j'ai eu la chance, en fait, de venir d'une lignée, en fait, qui est pour nous fondamentale de continuer à transmettre le savoir de génération d'artistes en génération d'artistes. Donc pour moi, la question ne s'est jamais posée, j'allais enseigner. Mais pour d'autres, oui, beaucoup sont au RSA et vraiment dans des conditions, disons-le, de précarité.
C'est clair, il y a vraiment un entrechoc entre transmettre et créer quand même. Essayez de nous expliquer un petit peu pas forcément la contradiction, c'est pas une contradiction, mais le temps étant ce qu'il est, le temps qu'on passe aussi à transmettre n'est pas celui forcément qu'on passe à créer, ou alors il arrive dans un autre moment.
Oui, c'est intéressant ce rapport effectivement au temps et la disponibilité que l'on s'accorde dans la création. Tout artiste vous dira, on a besoin de temps, donc de concentration, d'espace, de silence. Et c'est pas toujours évident d'arriver à ouvrir cet espace de la création et ensuite d'aller hop jumper pour aller à l'espace de la transmission où j'ai des cours, j'ai 12 élèves et quand j'enseigne à l'ISAE dans le cadre de la formation art et sculpture de super-héros, j'ai une douzaine d'élèves, donc je suis au service de l'autre et ensuite je suis supposée après à un moment donné retrouver cette concentration donc et cet espace pour être disponible à ma création. Donc c'est pas simple.
C'est pas simple, mais quelque part, un artiste pourrait difficilement rester ermite. Et ça veut dire aussi que vos cours et tous ces visages croisés et toutes ces interrogations et tout ce que les gens viennent déposer dans votre atelier servent probablement votre art aussi.
Alors, vous avez absolument raison. Non, mais Sandrine, vous avez absolument raison parce que j'aurai une capacité oursique assez intense. Donc, ça me permet de ne pas non plus complètement rester enfermée dans mon atelier.
On va révéler sur le site de Radio Présence, puisque l'émission est terminée, là où est votre nid d'aigle et où tout le monde pourra venir vous trouver, soit pour des portes ouvertes, soit pour un cours, soit pour regarder ce que vous faites et puis prendre contact.
Je vous remercie.
Merci à vous.